Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence, en dépit des conditions actuelles, toujours un peu compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, alors je vous présente bien volontiers mes meilleurs voeux et vous souhaite avant tout une bonne santé pour 2022. Prenez bien soin de vous, surtout. Comme il semble bien difficile de savoir de quoi cette nouvelle année sera faite, et peut-être plus encore que de tenir nos bonnes résolutions d'ailleurs, je vais mettre ici le souhait que nous puissions conserver, autant que possible, des échanges de qualité dans le cadre du bistrot des ethnologues pour toute la saison. L'année s'ouvre d'ailleurs sous les meilleurs auspices qui soient, puisque nous avons la chance d'accueillir ce soir Jean-Pierre-Olivier de Sardan pour la présentation de son dernier ouvrage en date, paru tout juste l'an dernier aux éditions Cartala et intitulé « La revanche des contextes, des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà ». Jean-Pierre-Olivier de Sardan, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation, est chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, le LASDEL, qui est d'ailleurs très important dans l'ouvrage dont il sera question aujourd'hui, le LASDEL qui est basé au Niger et au Bénin et dont il est l'un des fondateurs. Il est aussi directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Ce n'est d'ailleurs pas sa première venue au bistrot des ethnologues, puisqu'il était déjà intervenu dans le cadre, du bistrot au mois de décembre 2001 pour parler de pratiques de corruption dans le contexte africain essentiellement, intervention que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur le site du bistrot. Si le bistrot se réjouit bien évidemment d'accueillir Jean-Pierre-Olivier de Sardan, je suis à titre plus personnel très heureux de sa présence ce soir et d'être moi-même activement impliqué dans cette séance. Mes collègues, ainsi que les étudiants auxquels j'ai eu la chance de dispenser des cours théoriques et de méthodologie en anthropologie, savent combien j'estime les travaux de notre invité, devenus dans le cadre de ses enseignements, des lectures incontournables, et tout particulièrement le recueil d'articles devenus des chapitres dans ce livre, paru en 2008, « La rigueur du qualitatif, les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique ». Je ne peux évidemment que vous recommander la lecture de cet ouvrage en raison du fait qu'il éclaire fondamentalement ce qu'est l'anthropologie. Car en tant que jeune chercheur, il y a maintenant une quinzaine d'années, quand il me fallut faire de l'anthropologie et non plus seulement apprendre les leçons de la discipline, il me paraissait dès lors moins urgent de connaître les ficelles du métier, pour reprendre l'expression de Becker, ou les trucs et astuces pour faire du terrain, qui était cependant utile, que de comprendre les enjeux de cette pratique si particulière que se trouve être l'enquête de terrain ethnographique, qui doit caractériser aussi au passage, voire distinguer pour certains, l'anthropologie ou la socio-anthropologie des autres disciplines des sciences sociales. La rigueur de la méthode scientifique, quelle que soit d'ailleurs la science en question, n'est pas un moindre problème. Elle devient même un enjeu majeur, une question de légitimité dès lors que l'on se trouve dans le cadre des sciences qualitatives, souvent qualifiées, à tort, de sciences molles. Cependant, la situation sanitaire que nous traversons, avec son cortège d'experts en tout genre, pour la commenter, l'expliquer ou donner quelques avis quant aux meilleurs moyens d'en sortir, nous rappelle de façon édifiante l'importance de la méthode dès lors qu'il s'agit de science. La rigueur du qualitatif, comme l'ensemble des textes de son auteur, appelle aussi le chercheur à la prudence et l'alerte sur les nombreuses facettes des biais de surinterprétation. Parfois tranchantes, les propositions de Jean-Pierre-Olivier de Sardan ne manquent pas d'égratigner certains travers de nos pratiques. Le niveau d'exigence pour faire de la recherche y est parfois tel qu'il peut en devenir intimidant. Mais je préfère plutôt y voir une invitation à toujours faire mieux, à réfléchir en permanence aux conditions de production des données et des analyses qui sont au cœur de cette curieuse entreprise qu'est la recherche. De méthode, il est également question très largement dans l'opus qui nous intéresse ce soir, toujours traité de façon extrêmement rigoureuse, notamment quand il s'agit d'utiliser de façon raisonnée le concept ô combien délicat de culture. Mais pas seulement, car cet ouvrage aborde également les politiques publiques en Afrique, surtout celles liées au développement, sur lesquelles l'auteur travaille depuis près de 50 ans. La revanche des contextes concilie donc deux champs de prédilection de Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Partant du constat, a priori évident, qu'un écart et parfois un véritable fossé sépare les politiques publiques qui sont définies et énoncées d'une part, et d'autre part perçues différemment et mises en œuvre par les acteurs, Jean-Pierre-Olivier de Sardan interroge les logiques qui conduisent à ces discordances et questionne les méthodes qu'il serait pertinent de mettre en œuvre pour les observer et les comprendre. Ce faisant, le présent ouvrage fait une nouvelle fois réfléchir et fait écho à l'actualité, bien au-delà des contextes africains qu'il décrit et questionne avec finesse. Avant de donner enfin la parole à Jean-Pierre-Olivier de Sardan, je m'autorise un bref rappel des règles du jeu pour ce qui concerne ces séances du Bistrot des ethnologues, à savoir une présentation qui durera autour de 45 minutes, suivie d'un échange d'une durée à peu près similaire entre notre invité et toute personne de l'assistance souhaitant intervenir. Il faudra faire passer le micro à chaque fois afin que les personnes qui se trouvent de l'autre côté de leurs écrans puissent entendre vos questions, donc on fera circuler en fonction, et les questions peuvent aussi être posées via le chat et seront répercutées dans l'assistance par l'intermédiaire de Godefroy, sauf erreur. Voilà. Au nom du Bistrot des ethnologues, je remercie une fois de plus très chaleureusement notre invité, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, d'être venu ce soir pour nous présenter son dernier ouvrage, mais également tous les membres du public qui ont fait le déplacement ou ceux qui se trouvent derrière leur écran. Sachez par ailleurs que la séance est donc enregistrée, sera prochainement disponible en libre accès sur le site du Bistrot. Et pour ce dernier, je remercie enfin les partenaires sans lesquels nos séances ne pourraient se faire, à savoir la DRAC Occitanie, le Conseil départemental de l'Hérault, la Fenêtre, qui nous accueille ce soir, et la librairie La Cavale, qui met à notre disposition des ouvrages à l'achat juste là-bas. Merci d'y prêter attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable séance. Et Jean-Pierre, la parole est à vous. Merci.
Merci. Une petite, je ne sais pas si c'est une étude de cas ou une anecdote, qui se trouve d'ailleurs dans l'ouvrage, mais qui remonte à assez longtemps. Et en fait, j'ai du mal à en trouver beaucoup de ce genre. Vous verrez peut-être pourquoi. Je vous en donner les trois quarts, et puis je vous donnerai le dernier quart de cette anecdote ou de cette étude de cas à la fin. Voilà. Donc le début, c'était dans les années d'après les indépendances. L'une des politiques de développement les plus utilisées, disons, dans le domaine de l'agriculture, c'était l'importation en Afrique de ce qu'on avait appelé la révolution verte en Inde. Et en particulier, passer à une agriculture plus intensive. Et un des moyens, c'était le développement de la traction attelée, charrue et bœuf tracteur, qui n'était pas en général la façon de travailler, les gens travaillant essentiellement à la houe en Afrique, à la houe ou à l'hilaire, enfin peu importe. Et donc un projet important au Sénégal avait promu la traction attelée à travers toutes les campagnes sénégalaises, et donc des centaines, voire des milliers de vulgarisateurs agricoles sur leurs petites motos allaient expliquer aux paysans les bienfaits de la traction attelée. Et il y avait des programmes de subvention pour acheter d'un côté des charrues et de l'autre côté des bœufs pour tirer les charrues. Et tous les indicateurs étaient positifs d'une certaine façon, puisque le nombre prévu de bœufs avait été placé, le nombre prévu de charrues dans le programme était en cours, les séances de vulgarisation s'étaient toutes déroulées, donc les indicateurs étaient... Et arrive là-dedans des anthropologues, des socio-anthropologues, c'était pas moi, c'était des amis dont l'un était au CIRAD et aussi à Montpellier, qui font une étude de voir comment ça se passait, disons, en quelque sorte, pour de vrai sur le terrain. Pour de vrai sur le terrain, l'histoire était tout à fait différente, à savoir que les paysans n'étaient pas du tout intéressés, en fait, par la traction attelée, mais ils prenaient les charrues et ils allaient les vendre de l'autre côté de la frontière à des forgerons. Il se trouve que les forgerons n'avaient plus de fer, puisque le système des bas fourneaux qui produisaient le fer traditionnellement avait à peu près disparu. Ils avaient besoin de fer pour fabriquer quoi ? Des houes, c'est-à-dire ces fameuses houes qui servaient aux gens à cultiver à la place des charrues. Et donc, ils passaient la frontière, ils vendaient les charrues. Du côté des bœufs, en fait, ils ne prenaient pas des bœufs, ils prenaient des vaches, parce qu'ils étaient intéressés par élever, au fond, faire de l'embouche, et élever les vaches sous le veau et vendre les veaux. Donc voilà ce qui s'était passé. Et ce qui est une histoire, comme on en trouve des milliers, des dizaines de milliers dans l'histoire du développement ou des interventions en développement en Afrique, c'est-à-dire un projet qui semble bien marcher. Si on voit un peu de plus près ce qui se passe, on voit qu'il y a plein de contournements, de détournements, de stratégies obliques, de choses qui ne se passent pas du tout comme prévu. Là, je vous dirai après comment l'histoire s'est terminée, parce que c'est d'une façon inhabituelle. Alors, bon, ça, c'est quelque chose, au fond, qui vous met un peu dans l'ambiance de cet ouvrage, puisqu'on y voit à la fois un modèle voyageur, l'attraction attelée, mais les modèles voyageurs sont absolument multiples, c'est-à-dire que les interventions standardisées, on trouve les mêmes interventions standardisées au Niger, au Bénin, au Sénégal, faites par les mêmes institutions ou par d'autres, par les ONG, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Là, c'était la paysannerie, l'agriculture, ça peut être la santé, ça peut être la justice, ça peut être les élections, ça peut être... On trouve partout des interventions standardisées. Partout, on trouve qu'en général, les tableaux de marche de ces programmes semblent à peu près fonctionner, en tout cas tels qu'ils ont été prévus. Et partout, on trouve, dès qu'on creuse un petit peu, ces différences entre des normes sociales locales qui font que les gens, ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient. Le fait aussi, d'ailleurs, du côté des agents de terrain, des institutions, ce que j'appelle des normes pratiques, je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, dans l'exemple du Sénégal, les agents de terrain se doutaient bien, qu'ils savaient à peu près bien qu'ils ne faisaient pas l'attraction attelée, mais ils ne le disaient pas, parce que ce n'était pas pour eux pertinent d'aller dire à leur hiérarchie que ça ne marchait pas comme ça. Tout le monde était content, finalement, que ça continue à fonctionner de cette façon-là. Alors, pour présenter un peu cet ouvrage, le menu, c'est d'abord deux objectifs parmi d'autres que j'avais dans ce livre. Ensuite, trois piliers, en quelque sorte, sur lesquels repose le livre. Et puis après, je n'ai pas trouvé quatre, il y en avait six parties qui, en quelque sorte, structurent l'ouvrage. Sur les objectifs, bon, il y en a évidemment toujours plusieurs. Souvent, en fait, ces objectifs, je les vois après coup. Hein. En général, on ne les a pas au départ, puis on écrit le livre. Après coup, je me suis rendu de quels étaient les objectifs, et j'en vois deux. D'une part, le lien théorique et empirique, et d'autre part... le prolongement avec deux ouvrages antérieurs. Alors, l'interpénétration entre théorique et empirique, c'est-à-dire grosso modo, c'est du 50-50 dans tout le livre, c'est-à-dire qu'il y a une constant dialogue, constante incrustation de descriptions empiriques, d'études de cas, et en même temps de réflexions autour de ça et de dialogue avec d'autres chercheurs, avec d'autres ouvrages, avec d'autres disciplines. Alors, du côté des analyses empiriques qui sont le socle, c'est pas que personnel. C'est pour ça que c'est un ouvrage qui est, à certains égards, bien qu'il soit écrit en nom personnel, mais qui repose sur la production collective de données empiriques par ce laboratoire que tu as mentionné, le LASDEL, qui est très, dont mon histoire personnelle est liée beaucoup à cette aventure collective que nous avons fait en faisant un laboratoire qui est aujourd'hui plus ou moins internationalement reconnu dans un pays qui est considéré comme un des plus pauvres du monde et qui en plus est maintenant soumis au drame du terrorisme et des insurrections djihadistes. Notre but, c'est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans, et était de faire exister en Afrique de la recherche, de la vraie recherche en sciences sociales. J'ai dit de la vraie recherche parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'universités, beaucoup de collègues, mais la plupart de nos collègues en Afrique sont plus des consultants que des chercheurs, parce que les salaires sont plus faibles et la consultance rapporte beaucoup plus. Et dans la consultance, on n'a pas les mêmes exactement, ce n'est pas le même métier que le métier de chercheur. Et donc, il y avait beaucoup plus de consultance, disons, que de recherche. La proportion est complètement inversée par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et puis aussi, on sait que nos pays en Afrique sont victimes d'une catastrophe éducative depuis l'ajustement structurel et jusqu'à nos jours, qui fait que c'est beaucoup plus difficile de produire des chercheurs. On produit un chercheur, il faut 25 ans pour produire un chercheur junior, il en faut 50 pour produire, pas 50, mais disons 35, 40 pour produire un chercheur senior, c'est beaucoup plus compliqué. Et notre laboratoire s'est vraiment centré depuis sa création sur des études empiriques solides. On pense que c'est vraiment la rigueur de nos études empiriques qui peut faire la valeur de nos travaux. Ça ne va pas être, je prends par exemple les travaux qu'on a fait sur la corruption. Beaucoup de gens dénoncent la corruption, mais étudier comment ça fonctionne concrètement sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Et à mon avis, à notre avis, c'était beaucoup plus important. Il n'y a pas besoin de beaucoup de gens ou de beaucoup de savoir pour faire des prises de position anticorruption, bien sûr, mais savoir quels sont exactement les enchâssements sociaux, des pratiques, des échanges corruptifs, c'est une autre histoire. C'est ce qu'on a fait, mais comme on l'a fait dans beaucoup de domaines. Et vraiment, je pense que ce socle empirique, c'est la grande force du LASDED, et je pense que c'est pour ça qu'il a acquis une certaine réputation. Alors ça s'est fait, bien sûr, au départ, mais il se trouve que les financements venant des institutions de développement, là, au début, travaillaient beaucoup sur des projets de développement, des programmes de développement, et petit à petit, ça s'est élargi, parce que notre objectif était au moins autant de travailler sur des problèmes nigéro-nigériens et en dialogue avec l'État nigérien et les structures publiques nigériennes, et pas simplement avec l'extérieur et les institutions internationales. Et donc, on a travaillé sur plein de thèmes qu'on retrouve dans cet ouvrage. La santé, bien sûr, qui est un des thèmes principaux. Le fonctionnement du service de santé public. La justice, l'éducation, les modes de lutte contre la pauvreté ou les crises alimentaires. Les collectivités locales et la décentralisation. Les élections, la sécurité et les migrations. Vous savez déjà un paquet, vous voyez, d'interventions depuis 20 ans avec, on est maintenant au LASDED, une trentaine de chercheurs au Niger et au Bénin. Et une attention vraiment focalisée sur la qualité, disons, méthodologique, avec des enquêtes qui sont, par rapport aux traditions anthropologiques habituelles de l'ethnologue solitaire, c'était au contraire des enquêtes souvent qui sont multisites et multichercheurs, enquêtes collectives. Et alors, si vous voulez voir les résultats, c'est facile, il y a un site LASDED, on a 130 numéros d'études et travaux du LASDED qui sont en quelque sorte des documents de travail. Il y en a au moins une bonne centaine qui est en attente encore, et vous pouvez le voir, c'est en accès libre, www.lasdel.net. Donc, voilà. Ça vous donne un peu l'idée de cette masse empirique sur laquelle je m'appuie beaucoup dans ce livre. Voilà, ça c'est pour le socle empirique. Du côté des perspectives et débats théoriques, il y a beaucoup d'utilisation de concepts dans cet ouvrage, mais je crois que c'est des concepts que j'essaye d'expliquer assez clairement, et qui sont pour beaucoup bricolés ou empruntés ou à d'autres. C'est-à-dire qu'il est rare que l'on invente à partir de rien dans nos disciplines. On est plutôt en train d'ajuster un petit truc un petit peu mieux que le prédécesseur ou trouver qu'il s'est planté sur ça, mais qu'on peut le faire comme ça. Donc on travaille beaucoup. Finalement, j'ai beaucoup utilisé des concepts retravaillés. Alors bien sûr, je cite mes dettes. Il faut toujours citer les dettes et à qui on a pris ou emprunté. Et aussi comment on le transforme ou on modifie ce que d'autres ont fait avant. Mais ça relève au-delà de ça d'un parti pris théorique personnel, qui est ce que j'apprends systématiquement à mes étudiants, c'est-à-dire à ne pas chercher la cohérence de leur travail dans un dogme théorique. Très souvent, on a nos collègues, les directeurs de thèse, qui demandent il faut d'abord planter un drapeau théorique, je vais me situer dans telle ou telle allégeance à tel ou tel paradigme. Et j'arrête pas de dire aux étudiants, mais pourquoi diable faut-il faire une allégeance à un paradigme au départ? Qu'est-ce qui vous oblige à ça? La cohérence de votre travail, c'est la cohérence de vos interprétations par rapport aux données empiriques. Oui, il faut une cohérence, on ne fait pas un melting pot, on ne fait pas une bouillie, mais c'est, la cohérence, elle est liée dans l'adéquation entre vos concepts, vos interprétations et les données. Ce n'est pas dans l'allégeance à qui que ce soit et à quelques grands maîtres que ce soit. Et des grands maîtres, on en a pas mal qui sont cités à longueur de journée, et j'ai toujours un peu de mal avec ça. On peut prendre chez eux, mais il n'y en a aucun qui n'ait pas dit aussi des conneries. Ils ne disent pas que des trucs intéressants, aussi grands soient-ils, évidemment. Donc il y a ce parti pris d'éclectisme théorique. Et de fait, moi, les concepts que je les prends à droite, à gauche, et je ne me soucie pas du tout de l'école dans laquelle ils font. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation qu'on peut faire de ce concept pour expliquer ou pour rendre compte d'une situation donnée, d'un contexte donné, d'un rapport de force donné, etc. etc. Voilà. Et c'est aussi, ça implique aussi un grand dialogue avec d'autres. C'est-à-dire on ne produit pas tout seul, on produit dans le dialogue avec d'autres chercheurs qui nous ont précédés, parfois de longues années, parfois qui sont au jour actuellement. Et ça veut dire aussi sortir de sa discipline. Je lis beaucoup plus d'ouvrages non anthropologiques qu'anthropologiques, de fait, vu les sujets. Quand j'étudie la santé, je lis sur les politiques de santé. Quand j'étudie les administrations, je travaille avec les sciences politiques et les sciences des administrations ou les sciences des politiques publiques, etc. Et donc, de fait, je pense que ce dialogue est important. Je suis un fervent partisan de l'unité des sciences sociales. unité épistémologique des sciences sociales. Les frontières internes sont relativement liées à des épisodes historiques ou institutionnels, mais fondamentalement, on fait le même métier. Et donc, c'est vrai que depuis longtemps, par exemple, moi, je me suis intéressé à ce que faisaient les sciences politiques. Au même moment où il y avait des travaux, je ne sais pas si vous connaissez Pressman et Wildavsky, qui sont des pionniers dans l'étude des politiques publiques, Lipsky sur l'étude des bureaucrates de rue, etc. Bon, sont des auteurs que nous citons depuis 30 ans, quoi. Mais on était certainement les premiers anthropologues à avoir cité ça. La même chose du côté de la sociologie qualitative. Je crois qu'on est les premiers à avoir cité plus ou autant les sociologues de l'école de Chicago que de citer les ancêtres tutélaires de l'anthropologie. Donc je pense que ce dialogue interdisciplinaire, qui n'est même pas interdisciplinaire, puisque au fond on n'est qu'une même discipline, mais enfin ce dialogue avec d'autres sous-disciplines est important. Voilà, et donc cet ouvrage, j'ai vraiment son ambition, c'est de faire une imbrication constante et un aller-retour constant entre données empiriques et interprétations et réflexions théoriques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si courant, finalement, je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a soit, on a affaire soit à des publications extrêmement empiriques, qui pour moi sont très utiles, hein, pas du tout, mais qui restent liées à un site donné, à un problème très donné, et avec une difficulté à un peu en sortir, et d'autre part, un goût, à mon avis, souvent excessif pour les analyses très générales, théoriques, décrochées de tout ancrage empirique solide. Voilà. Alors ça, c'était le premier objectif, donc cette sorte d'imbrication 50-50. Deuxième, c'était plus personnellement terminer une trilogie. Comme je travaille depuis longtemps, j'ai pas mal édité d'ouvrages collectifs ou personnels, mais il y en a deux personnellement qui me tiennent à cœur. La rigueur du qualitatif que tu as cité et l'autre qui était anthropologie et développement. Il se trouve que ces deux ouvrages qui sont pour moi les deux plus intéressants ou les deux plus importants et qui ont été aussi les plus diffusés, sont des ouvrages qui ne donnent pas accès direct à l'empirie. Ils ont un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement fondés sur mon expérience empirique personnelle, et en même temps, elle reste cachée. Enfin, elle n'est pas directement utilisée, ni dans l'anthropologie et développement, qui essayait de synthétiser un peu les travaux que nous étions un certain nombre à faire à l'époque en Europe et en Afrique sur les questions de développement. Mais ça parle de cette émergence d'une nouvelle anthropologie du développement et de ses bases, mais en même temps, il n'y a pas d'étude de cas qui est proposée. La rigueur du qualitatif, c'est la même chose, c'est entièrement basé sur mon 40 ans de travail de terrain, et en même temps, il n'y a rien qui... Donc, c'était toujours sous-jacent. Et cette fois-ci, je joue plus carte sur table, mais carrément, j'ai contexte, c'est-à-dire que du coup, cet aspect... l'empirie est à visage découvert dans ce livre, alors qu'elle était à visage caché, disons, dans les deux autres. Et en même temps, c'est un prolongement des problématiques des deux précédents. De l'anthropologie du développement, dans la mesure où petit à petit, on s'est bien rendu compte que le développement, c'était une certaine forme de politique publique, mais qu'il fallait aussi, il y avait une imbrication forte entre ce qui était développement, mais ce qui était aussi les États locaux, les politiques publiques nationales, les bureaucraties nationales. Et donc, on a élargi l'anthropologie du développement, une anthropologie des politiques publiques, une anthropologie des interventions étatiques, une anthropologie des bureaucraties, etc. Une anthropologie de l'ingénierie sociale, je vais revenir là-dessus. Et du côté épistémologique et méthodologique de la rigueur du qualitatif, j'essaye de montrer dans cet ouvrage que derrière ça, il y a une sorte de vision, de perspective d'une anthropologie, des discordances, des écarts, des effets inattendus, et avec son socle empirique. Voilà. Alors, ça, c'était pour les deux objectifs. Les trois piliers. Trois. Alors, trois, c'est d'une part l'ingénierie sociale, d'autre part ce que j'appelle l'épreuve des contextes, et en troisièmement, la question des normes pratiques. Voilà. Ingénierie sociale. Ce que je vous disais tout de suite, les politiques de développement, les interventions en développement, les projets en développement, ce sont au fond des politiques publiques, que ce soit mis en œuvre par des partenaires extérieurs ou par les États, mais des politiques publiques un petit peu particulières. Dès qu'on dit développement et aide humanitaire, je mets dans le même panier développement et aide humanitaire, qui d'ailleurs pour les récipiendaires, pour les populations locales, font exactement la même chose, ce sont des politiques publiques quand même conçues et financées de l'extérieur pour une grande part. puisque ce sont les institutions internationales, les agences d'aide, les grandes ONG qui sont derrière l'ensemble, la grande majorité des interventions en matière de développement. Et donc, ils sont conçus, promus, financés de l'extérieur et mis en œuvre par des acteurs nationaux. Mais ces acteurs nationaux sont largement dépendants de cette aide extérieure. Et donc, une des conséquences de cette spécificité des politiques publiques, c'est leur caractère souvent très standardisé. Beaucoup plus standardisé qu'une politique publique en France, en Suisse ou en Allemagne, où il peut y avoir des échanges entre les politiques publiques, des inspirations mutuelles, on se copie, on se pique les trucs, etc. Mais là, une standardisation aussi grande que celle qu'on trouve dans le monde du développement, je pense qu'on ne la trouve pas du tout dans les politiques publiques nationales, ou même les politiques publiques européennes, ou quelles qu'elles soient. Vous savez, les programmes de l'UNICEF au Niger, au Bénin, au Congo sont les mêmes, quasiment. Vous retrouvez les mêmes items, les mêmes politiques qui sont mises en œuvre. La coopération française fait les mêmes actions au Mali, en Centrafrique, enfin, avant, et, ou à Madagascar, etc., etc. Vous voyez, une standardisation extrêmement, extrêmement forte, et c'est ça que j'appelle modèle voyageur. En même temps, tout cela, au fond, relève de ce que j'appelle l'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, c'est au fond des interventions, je peux vous en donner la définition, des dispositifs d'intervention planifiés, élaborés par des experts, visant à implanter ou modifier des institutions et ou des comportements dans des contextes variés. Voilà, c'est une vision qui est assez générale. Ça comprendra à peu près ce que fait une ONG, ce que fait la Banque mondiale, ce que fait la coopération anglaise, etc. C'est bien, toutes ces interventions sont planifiées, elles passent toutes par des procédures de projection dans l'avenir, des cadres logiques qui sont à peu près les mêmes partout, etc. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, cette ingénierie sociale fonctionne à des échelles très différentes. Ça peut être des projets très simple, faire 10 puits dans 10 villages, c'est déjà de l'ingénierie sociale. C'est de l'ingénierie tactique parce qu'il faut faire les puits, mais autour, il faut voir comment ils vont être gérés, est-ce qu'on va vendre l'eau, là où on va les mettre, etc. Donc vous voyez qu'on est aussi dans l'ingénierie sociale. Un projet d'ONG de crédit solidaire, donc ça va être l'ingénierie sociale. Mais c'est la même chose, il y a aussi, ça c'est une échelle micro en quelque sorte, il y a aussi des échelles macro. L'ajustement structurel, c'était une sorte de macro-ingénierie sociale où on avait les mêmes conditionnalités qu'on balançait à peu près dans tous les pays d'Afrique avec les mêmes, sous à peu près la même forme. Alors, ça amène à une distinction qui pour moi est centrale dans ce livre, enfin, pilier de ce livre, le livre il parle d'autre chose, mais il parle aussi de ça, c'est la distinction entre ingénierie sociale et ingénierie technique. Parce que souvent, ils sont mis sur le même plan. D'ailleurs, rien que le fait, quand vous dites le mot des technocrates, bon, ça évoque des gens qui font de l'ingénierie sociale, hein, les technocrates. Mais déjà, le mot dedans, il y a déjà le mot technique qui fait qu'on les prend comme si c'était des ingénieurs, hein, comme si c'était de la technique. Il y a beaucoup de cas où ils sont mis sur le même plan. Les fameux essais randomisés que font le laboratoire d'Esther Duflo, qui a eu le prix Nobel pour ça, etc., où on fait un groupe témoin et un groupe à qui on fait une intervention, puis on essaye de comparer, ça vient directement de l'ingénierie biologique, qui est une forme d'ingénierie technique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de tentatives de mettre sur le même plan les deux. Et pourtant, c'est quelque chose de complètement différent, sur quelque chose qui est au centre là aussi de cet ouvrage. L'ingénierie technique est relativement indépendante des contextes de mise en œuvre. Si vous faites, bon, c'est évident quand vous voyez les objets, le téléphone ou la voiture, la même, on va dire, fonctionne à peu près partout, dans les mêmes, quels que soient les contextes. Un vaccin fonctionne aussi à peu près partout, quels que soient les contextes, relativement. Mais quand même, ça guérit les riches et les pauvres, les gens du sud et les gens du nord, d'une façon à peu près équivalente. Lorsqu'on est dans l'ingénierie sociale, c'est exactement l'inverse. Toute forme d'ingénierie sociale est extrêmement dépendante des contextes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quelque chose qui marche dans un contexte A, dans un village A, rien ne permet de prédire que ça peut marcher aussi bien dans le village B ou dans le village C, même si apparemment ils ont des similarités. C'est ça qui a en fait développé le pourquoi de ça, c'est l'essentiel du livre, c'est de montrer pourquoi justement l'ingénierie sociale est extrêmement dépendante des contextes et comment elle est sous-estime de façon générale. Surtout lorsque elles sont des politiques publiques standardisées, sous-estiment cet effet des contextes. Parce que dans l'ingénierie sociale, le résultat est relativement imprévisible. Vous faites un projet de microcrédit, vous faites une nouvelle politique de santé maternelle, vous envoyez des charrues et des bœufs, etc. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. La prédiction est extrêmement difficile en matière d'ingénierie sociale. Il se passera toujours beaucoup de choses inattendues. Quand vous vaccinez, ben, grosso modo, vous maîtrisez beaucoup plus les choses, etc. Donc, ces contextes de mise en œuvre d'une intervention sont méconnus un peu par tout le monde. Ils sont méconnus par les experts internationaux en développement. Et c'est d'ailleurs pas, ils ne peuvent pas le savoir. Dire, un expert à Washington, à Genève, à Bruxelles ou à Paris, il ne sait pas comment son projet va arriver dans tel petit village nigérien ou dans tel quartier d'Abidjan ou dans quel bidonville de Bamako ou chez les éleveurs de Mauritanie. Il ne peut pas connaître tout ça. Il ne peut même pas anticiper ce qui va se passer. C'est normal. Je ne suis pas en train de le critiquer en disant que ce sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine. Il n'y a aucun doute. Mais ils ne peuvent pas maîtriser ces contextes locaux. Et c'est la même chose du côté des gouvernements africains. On pense parfois que parce que c'est un gouvernement africain, les ministères locaux maîtrisent mieux les contextes locaux de leurs propres interventions. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Je vous jure que tous les résultats que nous, on a quand on voit comment les choses se passent, ça m'est arrivé combien de fois qu'on fait une étude dans une maternité. On a fait ça, par exemple, avec la maternité centrale de Niamey, qui est une grosse maternité où il y a plusieurs dizaines d'accouchements par jour, même centaines parfois. Et où on a passé des mois à étudier ça, nos collègues en particulier. Et après, quand je vais voir le directeur de la maternité que je connais et que je lui dis « voilà ce qui se passe chez toi », il dit « quoi ?» J'ai dit « attends, c'est la vie quotidienne de ta maternité ». Donc lui qui est le directeur en chef de la maternité, il ne sait pas, ou il fait mine de ne pas savoir, ou il sait un peu mais pas vraiment, etc. Mais grosso modo, comme je connais, il n'est pas en train de me jouer la comédie complètement. Donc, il ne sait pas vraiment. Voilà, on va dire, il ne sait pas vraiment. Et si vous remontez dans les niveaux des ministères dans lesquels on a aussi travaillé, l'écart entre ces gens qui sont dans les ministères du Niger, c'est ce que je connais, et ce qui se passe dans une dispensaire, dans un petit tribunal local, dans une école primaire, est très grand. Ils ne savent pas non plus ce qui se passe vraiment, ou ils font mine de ne pas savoir, etc. Alors, voilà. Donc ça m'amène à cette histoire, et c'est vraiment ça ce qui est un peu au centre de cet ouvrage. Deuxième point, deuxième pilier, ce que j'appelle l'épreuve des contextes, qui est le prolongement de ça. C'est ce qu'on a appelé en anglais, ce qu'on appelle implementation gap, le fossé, l'écart dans la mise en œuvre d'une intervention. Toute intervention connaît des écarts dans sa mise en œuvre. Ça ne se passe pas comme ça a été prévu sur le papier par ceux qui l'ont élaboré. Alors, ce n'est pas nouveau. Donc, je vais citer Pressman et Wildavsky, qui sont deux politistes américains qui, je crois, dans les années 80, fin 70-80, je ne me rappelle plus la date, ont fait un livre qui était là-dessus. Alors, c'est intéressant parce que c'était aux États-Unis, ce n'était pas en Afrique. Je vous le cite parce que c'est le titre le plus long qui ait jamais été fait pour un ouvrage de sciences sociales. Alors, vous prenez votre respiration. Je vous le traduis. La mise en œuvre. Comment les grandes attentes à Washington sont mises en morceaux à Auckland? Ou pourquoi il est étonnant qu'un programme fédéral arrive à marcher tant soit peu, quelque part? Ceci est une saga de l'administration du développement économique, dite par deux observateurs sympathisants qui cherche à comprendre quelque chose sur une fondation d'espoir ruinée. Donc, ça montre comment... Bon, voilà, on pourrait s'amuser à le faire au lieu de Washington à Auckland, on peut le faire de Paris à Montpellier, si vous voulez. On peut s'amuser à faire des trucs comme ça. Mais comment, voilà, des grands programmes, une fois qu'ils arrivent sur le terrain, bam, il se passe vraiment des... Bah. Donc, c'est un peu le début. Et au même moment qu'il faisait ça... Nous-mêmes, avec Thomas Birchink et je pense peut-être d'autres gens de l'IRD, je ne sais pas si Jean-Pierre Chauveau qui est là, on faisait la même chose à propos des dérives des projets de développement. C'est-à-dire que le projet de développement sur le papier, quand il arrive sur le terrain, il a une dérive. Il se passe, c'est pas ce qui s'était prévu. C'était donc à peu près la même notion, la même idée qu'il y a derrière que cette histoire d'implementation gap. Donc c'est quelque chose de fondamental dont il faut comprendre que ce n'est pas lié simplement à la bonne élaboration. Parce qu'évidemment, la première réaction, c'est de dire si ça ne marche pas si bien, c'est qu'ils ont été mal faits. Et ce que montre plutôt l'analyse des sciences sociales, c'est qu'aussi bien faits soient-ils, aussi parfaits soient-ils, et même peut-être parce qu'ils sont parfaits, ils ne peuvent pas marcher comme c'est prévu. Il est impossible qu'un programme élaboré quelque part puisse marcher dans des contextes extrêmement variés ailleurs de la même façon et tel que c'est prévu. Pourquoi ? Simplement parce que ceux qui l'ont mis en œuvre, ceux qui l'ont conçu, etc., l'ont fait dans une certaine vision du monde, dans une certaine attente, dans un certain contexte, expert, qui n'est pas du tout celui des acteurs qui vont le mettre en œuvre. Et c'est les acteurs qui vont le mettre en œuvre, vous êtes confrontés à ce projet sur le terrain, ont leurs propres attentes, ils ont leur propre vision des choses, ils ont leur propre stratégie, ils ont leurs propres normes, ils ont leurs voies, et qui ne sont pas les mêmes, par définition, sinon on serait tous identiques. Et de fait, ce jeu des acteurs locaux va forcément transformer, aussi parfaite soit sur le papier, va transformer ça. Je ne sais plus qui a dit, c'est Clausewitz qui disait « Rien n'est plus dangereux qu'un plan parfait ». C'est Clausewitz, hein, mais c'est ça. Je crois que je le cite, mais j'ai oublié. OK. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de naturel, enfin, en quelque sorte naturel, social au contraire, mais qui va de soi que dans l'ingénierie sociale, il y a forcément cette implementation gaps, il y a forcément ces multiples écarts. Et c'est, alors, c'est vrai partout. C'est vrai en France, en Dada, c'est vrai au Niger, c'est vrai au Sénégal. Ceci étant, il y a des situations historiques où ça va plus loin, c'est-à-dire où ces écarts deviennent quasiment énormes, plus que. Alors, je vous en cite un exemple historique. Deux secondes, réfléchissez pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a un exemple historique ? L'économie soviétique. Prenez l'économie soviétique au beau temps de l'URSS, le Gosplan, qui était le plan qui devait tout prévoir dans toutes les communes populaires, dans tous les kolkhozes, etc. Et vous savez bien que l'écart entre les chiffres et le Gosplan et la pratique était démesuré. Tous les livres qui ont montré comment fonctionnait l'économie soviétique réelle, la corruption sous Staline, etc., étaient absolument gigantesques. Et donc, il y avait un écart absolument énorme entre les plans qui étaient faits par les économistes du parti et la réalité. C'est un cas historique où vous voyez que c'est plus fort que, disons, les politiques publiques de l'Union européenne, qui sont pourtant quand même assez larges. Donc, et la situation du développement, et en particulier du développement en Afrique, parce que l'Afrique est quand même le grand lieu des politiques de développement, même si on en trouve aussi en Amérique latine ou en Asie aussi. Mais enfin, en plus, c'est celle que je ne connais pas en Amérique latine et en Asie. Là aussi, on est dans une situation historique où il y a un grand écart. Pourquoi ? Parce que ce monde du développement fonctionne beaucoup avec des modèles voyageurs. Autrement dit, avec ces interventions standardisées que l'on va retrouver de la même façon, disséminées de la même façon dans tous les pays. Alors, OK, il y a ces écarts. Maintenant, il y a un autre type d'écart, si on fait du franglais, c'est ce qu'on appelle le knowledge gap. Il y a un écart aussi dans les connaissances de ça, des écarts de mise en œuvre. Autrement dit, le principe même qu'un modèle voyageur standardisé arrive dans un contexte africain lambda et qu'il va se passer des choses imprévues, il va se passer plein d'effets inattendus, autrement dit, c'est des effets inattendus. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très peu de documentation sur ces effets inattendus. Tout le monde fait comme s'il n'y avait pas d'effets inattendus. C'est ça le paradoxe un petit peu dans la situation dans laquelle on est, dans les situations de développement et d'analyse de politique publique. Bien souvent, c'est qu'on fait comme s'il n'y avait pas d'effets inattendus. Et comme si les indicateurs qui existaient montraient seulement qu'il y avait des effets attendus qui se produisent relativement de façon satisfaisante. C'est ce que je vous ai dit pour le cas du Sénégal et des charrues. Autrement dit, pourquoi ? D'abord, les politiques publiques et l'ingénierie sociale travaillent essentiellement avec du formel et sur du formel, sur des choses formelles, sur du solide institutionnel, sur du solide de papier, des procédures bien déclinées, des procédures, des montages de dossiers, des négociations avec les gouvernements, on est bien dans le formel là, du travail sur des statistiques, de la construction institutionnelle, hein, institution building, de la production d'organigrammes, de plans, de rapports, de comptes, de procédures bureaucratiques et comptables très sophistiquées. C'est ça l'ordinaire des interventions en politique publique, que ce soit au niveau d'une ONG, petite, moyenne, grande, ou d'une institution internationale ou d'une agence de développement. Okay. Donc ils travaillent avec du formel. Mais le fonctionnement, en particulier en Afrique, plus sans doute qu'ailleurs, partout il y a aussi de l'informel, mais en Afrique, ils se trouvent au contraire confrontés à des situations où il y a énormément d'informels. Pas simplement l'informel extérieur, comme on dit l'informel des marchés, l'informel du secteur dit informel, qui est le secteur qui échappe à l'économie formelle. Non, non, l'informel à l'intérieur même des services publics. C'est-à-dire qu'il y a un informel fort à l'intérieur des administrations, à l'intérieur du système de santé, à l'intérieur du système de judiciaire, à l'intérieur du système scolaire, qui est censé fonctionner d'une certaine façon, mais qui fonctionne de fait d'une autre façon, informellement. Parce que formellement, il y a les mêmes choses. Formellement, les programmes sont les mêmes, les instituts sont les mêmes, les classes, les examens sont les mêmes. Formellement, les juges sont les mêmes, ils ont la même tenue, etc. Mais de fait, dans la réalité, ça se passe complètement différemment. Complètement, pas totalement, mais assez largement différemment. Donc c'est l'informel des institutions. Alors là aussi, je vous dis, il n'y a rien de ce qu'on met en œuvre, de ce qu'on met en évidence par nos travaux depuis 30 ans, disons, en Afrique, qu'on ne retrouve pas d'une certaine façon aussi ici. On est bien d'accord, hein. Il n'y a rien. Simplement, c'est avec des proportions et des styles complètement différents. Donc si vous voulez, si vous avez la même sauce mais que vous mettez d'autres condiments et avec des proportions différentes, elle n'a plus du tout le même goût, quoi, si vous voulez, pour faire ce type de métaphore. Donc si vous voulez, voilà. Et donc ça permet d'une certaine façon de voir dans les conditions africaines des phénomènes qui peuvent exister chez nous mais beaucoup moins visibles. Donc c'est une des choses intéressantes, si vous voulez, on pourra en discuter, mais que un certain nombre de choses qu'on a mis en évidence sur la base de situations vraies, parce que c'est particulièrement plus facile à voir, en tout cas pour le chercheur, bien sûr, pour d'autres aussi, hein, et de fait peuvent éclairer des choses qui se passent ici de façon plus discrète, moins généralisée, moins intense, avec d'autres atours ou d'autres mises en scène, etc. Ok. Alors, ceci étant, ce poids, cette existence de l'informel en Afrique, les experts internationaux ne sont pas idiots. Ils ont bien repéré que parfois les choses ne se passaient pas comme ils attendaient. Et que, si vous prenez l'exemple de, je sais pas quoi, le plus connu, parce qu'ils utilisent toujours cet exemple, la corruption. Tout le monde sait que la corruption existe au Niger ou au Sénégal de façon importante. Tout le monde sait que là, elle existe aussi en France, mais pas de la même façon. C'est un bon exemple. Ici, en France, ça va être essentiellement dans les bâtiments et travaux publics, parfois dans certains domaines, mais vous n'allez pas payer qui que ce soit quand vous allez à l'hôpital pour qu'on s'occupe bien de votre malade, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas au même niveau, mais il y a aussi de la corruption. Mais on prend l'exemple. Donc, la corruption est assez très générale dans les administrations africaines. Donc, les experts ont bien repéré ça. Mais comment ils luttent contre la corruption? De nouveau, par des procédures formelles. De nouveau par d'autres normes, de nouveau par d'autres institutions, on va faire une chambre spéciale de ceci, on va faire un machin de ça, et on se retrouve dans le même cercle. Quand nous avons fait, avec Giorgio Blundo, on avait coordonné un travail sur État et corruption en Afrique, je ne sais pas si c'est peut-être celui-là que j'avais présenté il y a 20 ans, si vous voulez montrer, un des chercheurs, Marie-Lou Mathieu, qui a publié dans ses ouvrages, avait montré que les chambres, certaines des institutions ad hoc de lutte contre la corruption étaient elles-mêmes des sièges de corruption. Vous voyez, donc, c'est une histoire. L'anecdote qui vous met le mieux comprendre l'absurdité de ce type de fait de lutter avec du formel contre de l'informel qui lui-même s'est développé par rapport à du formel précédent, c'est une anecdote sur le permis de conduire. Il y a une fois un ministre des travaux publics, parce que c'est lui que ça dépend, les permis de conduire, c'est les inspecteurs des... comment ça s'appelle, là, qui font passer le permis de conduire. Non. Qui fait passer le permis de conduire? L'examinateur. Ce sont des agents de je ne sais plus quelle administration. Là. Bon, peu importe. Bon, vous savez que... Peu importe. En Afrique, au Niger, le permis de conduire s'achète. Tout le monde le sait. Si vous mettez, vous pouvez le passer normalement aussi, mais il s'achète. Et ce sera beau. Passer normalement, c'est plus difficile. L'acheter, c'est plus facile. Ok, ça s'achète. Et donc un jour, un ministre a décidé d'essayer de lutter contre ça. Et donc il a pris comme mesure de mettre un policier pendant l'examen pour surveiller ce qui allait se passer. Maintenant quoi, le permis coûte plus cher parce qu'il faut non seulement payer l'examinateur, mais aussi le policier. Donc vous voyez, cette sorte c'est presque une sorte de parabole de ce qui se passe avec beaucoup de ces politiques publiques. Alors, bien sûr, l'informel de la réalité, ce n'est pas du tout que de la corruption, ce n'est pas que du négatif. Hein. Le terme corruption est gênant parce qu'il est tout de suite très normatif et très dépréciatif, et on l'emploie en général pour parler de la corruption des autres et jamais pour parler de soi-même. Mais bon, on a tous été corrompus. Je veux dire, moi, je suis déjà intervenu avec dans une session de formation de jeunes magistrats, dans laquelle il y avait beaucoup d'ailleurs d'anciens inspecteurs de police qui passaient le concours de la magistrature, et je parlais de la corruption. Et ils s'attendaient à ce que je parle de la corruption chez les autres. J'ai dit non, on va parler de la corruption chez les magistrats et chez les policiers. Et bien pour les mettre à l'aise, je leur disais, mais vous savez, la transaction corruptive, il y a à la fois un corrupteur et un corrompu. Moi, j'ai déjà été corrupteur. Et tous, vous l'avez été. Vous avez tous été engagés dans la corruption. Mais moi aussi, j'ai déjà donné 500 francs CFA à un policier pour qu'il me laisse tranquille, parce que sinon, j'en avais pour une journée, parce qu'il me disait que j'avais pas mis le clignotant, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose... On ne peut pas utiliser trop... il faut se garder d'être trop normatif dans ce genre de choses. Voilà. Donc, le monde réel, et le monde réel dans lequel arrivent ces projets en Afrique, dans lequel arrivent ces politiques, c'est un monde qui est très éloigné du monde officiel, très éloigné du monde des documents, des déclarations, des séminaires, des cadres de concertation, des revues annuelles et des plans de développement. Oula. Donc, voilà l'épreuve des contextes. C'est-à-dire qu'un projet, quand il arrive, est soumis à une épreuve. Alors, je prends épreuve dans un sens très... une épreuve, c'est-à-dire qu'il va être... il va lui arriver des histoires, il va lui arriver des problèmes. Il va se retrouver un peu dépouillé de ce qu'il devait être, un peu contourné, un peu machin. Voilà. C'est un peu cette métaphore de l'épreuve qui me semble assez utile. Alors... Pourquoi il y a ce manque d'informations sur ce que sont sur cette question des effets inattendus? D'abord, du côté des politiques publiques, tous les indicateurs sont toujours des indicateurs pour mesurer les effets attendus. Tous. Cadre logique est fait pour ça, c'est une sorte de planification standard. D'ailleurs, c'est la seule chose dans le monde du développement, je crois que toutes les agences de développement, et toutes les institutions internationales et toutes les ONG ont adopté. C'est le cadre logique, une sorte d'outil de planification qui d'ailleurs au départ servait pour l'armée et pour les travaux publics, ingénierie technique, et qu'on applique dans l'ingénierie sociale comme si ça marchait de la même façon. Et il n'y a pas d'effet inattendu qui est prévu dans le cadre logique, c'est une planification. Il n'y a que les effets attendus. Alors, il y a voilà, les activités. Il faut voir que les activités soient bien réalisées, que l'argent soit bien dépensé, que les objectifs 1, 2, 3 soient attendus plus ou moins à 20%, à 80%, suivant en déroulant les choses. Donc, tout l'appareil de suivi-évaluation dans les politiques publiques est basé sur les effets attendus à base de quantification. Deuxièmement, il y a très peu de ce qu'on a pu appeler la recherche sur l'intervention en cours, implementation research. Or, c'est ce que nous faisons. Nous, quand nous observons un programme, on ne fait pas le programme avant. Ça n'a pas d'intérêt, il n'existe pas. Et après, ce serait plutôt une autopsie. Non, on essaye de voir comment le programme se marche sur le terrain. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand les agents de tel projet le mettent en œuvre. Donc, c'est ça, c'est une recherche pendant l'intervention. Il y a très peu ça. Ça intéresse assez peu les bailleurs. Et quand ils le font, ce sont par des consultants. Donc, ils sont sur des... méthodologie définie par le bailleur de fonds dans un temps limité sur la base de termes de référence qu'il propose, autrement dit avec très peu de capacité à voir les effets inattendus. Un consultant qui arrive et qui passe 3 semaines dans un pays pour évaluer un projet, est-ce qu'il peut voir vraiment ce qui se passe dans un dispensaire? Est-ce qu'il peut voir vraiment ce qui se passe dans un tribunal où il faut rester des semaines parfois pour connaître un peu les gens et savoir un peu comment ça marche? Il ne peut pas. Voilà. Il y avait aussi du côté des sciences sociales, pas beaucoup d'intérêt pour faire ça. Quand nous, on a commencé l'anthropologie du développement déjà, et que les gens de l'Orstom, devenus IRD aussi, l'ont commencé, grosso modo, on était placé dans le rang extrêmement dévaluateur de l'anthropologie appliquée. L'anthropologie appliquée, pas très intéressant tout ça. Alors que nous, on vous disait, mais non, le développement, c'est aussi important que la parenté, que les mythes, que les religions, que tout ça. Non, on voulait faire de l'anthropologie fondamentale de cette histoire-là. Non, c'était de l'anthropologie appliquée. Bon. Et voilà. Et puis, voilà. Troisième point, et puis c'est l'histoire des normes pratiques. Alors, les normes pratiques, je vais faire juste peut-être certains connaissent déjà le truc, je vais faire l'énorme pratique pour les nuls en deux minutes. C'est pas vous qui êtes nuls, hein, c'est une expression, excusez-moi. L'énorme pratique, c'est basé sur le problème suivant. Tous les agents de terrain que nous voyons fonctionner dans les administrations au Niger, enfin, les exemples sont innombrables dans le bouquin, je prends les agents de santé comme exemple, mais c'est la même chose dans tous les autres secteurs, tous les agents ne se comportent pas pour une bonne partie du temps conformément aux comportements prescrits. Ils s'éloignent des comportements prescrits, donc ce qu'on appelle des comportements non observants. En même temps, ces comportements ne sont pas erratiques, dans la mesure où presque tous font la même chose. Ils s'éloignent de la même façon. Autrement dit, ils ont des pratiques qui sont similaires, qui deviennent prévisibles. Moi, comme usager, je peux les prévoir. Donc ça veut dire qu'elles sont convergentes. Elles ont quelque part une régulation, ces pratiques. Non, ces écarts aux normes officielles, ce n'est pas des écarts de malades mentaux, de fous, ce n'est pas des écarts de criminels, c'est des écarts quotidiens de gens qui sont des bons, comme on disait avant, bon père de famille, bonne mère de famille, dans le vocabulaire suranné d'avant, et, bon, des gens tout à fait sympathiques et qui pourtant se comportent différemment. Si, par exemple, je vais vous dire, si je dois contacter un service au Niger, je vais aller demander ma carte d'identité dans mon... Ça m'est arrivé, donc je peux vous le dire. J'ai demandé ma carte d'identité à la mairie du quartier. Bon, je vais faire comme tout le monde. Je ne vais pas essayer de savoir quelles sont les procédures pour avoir une carte d'identité. Je pourrais perdre de temps absolu. Je vais essayer de savoir est-ce que je connais quelqu'un dans cette mairie qui peut m'arranger mon histoire. Et si je ne connais pas quelqu'un, est-ce que je connais quelqu'un qui peut ? Autrement dit, si je dois aller dans une administration inconnue, je ne vais pas chercher des procédures, je vais chercher des relations qui vont me permettre d'avoir un service un peu personnalisé, quitte après à donner peut-être un petit quelque chose, pour que mon truc se passe relativement bien. Et tout citoyen nigérien fera comme moi. Si je dois aller dans un centre de santé consulter, et où les horaires commencent à 7h30, je ne vais jamais aller à 7h30, parce que je sais que les personnels n'arrivent qu'à partir de 8h30, 9h. Et encore après, il faut qu'ils prennent le petit déjeuner, etc. Donc, voilà, ça c'est des choses que n'importe quel usager nigérien connaît, et que chercheurs, nous, on étudie plus systématiquement, contrairement à l'usager moyen, mais c'est ça qu'on étudie. Alors, ça veut dire donc que ces comportements non observants, décalés, sont quand même régulés. L'exemple que je donne aux étudiants, et je finis là-dessus, parce que c'est plus facile, c'est la conduite automobile. Il y a une même type de norme dans tous les pays, qui est le code de la route. On est d'accord, le code de la route, il est le même au Niger, il est le même au Sénégal, il est le même en France, il est le même en Suisse, il est presque le même en Angleterre, mais comme les Anglais, bon, ils font de l'autre côté. Mais c'est le même. D'accord ? En même temps, les règles pratiques sont différentes. À Niamey, si vous conduisez à Niamey, vous devez savoir qu'à tout moment, un taxi peut déboîter et s'arrêter sans mettre son clignotant. Et à tout moment, il peut reprendre la file sans mettre son clignotant. Si vous ne le savez pas, vous allez vous poser un accident. Vous devez savoir aussi que l'histoire de la priorité à droite ne vaut pas quand il y a une grande latérite et une petite route. Pourtant, il n'y a pas de panneau stop. Normalement, il n'y a pas de panneau stop de laisser ce passage. Normalement, priorité à droite, ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que la grande voie a toujours priorité sur la petite voie. Mais c'est à savoir, c'est ça des normes pratiques. Si vous ne maîtrisez pas ces normes pratiques, vous avez un accident à Niamey. Très vite. Si vous les maîtrisez, mais personne ne vous les apprend, ces normes pratiques. Enfin, vous apprenez vous-même, c'est une sorte de savoir un peu latent, qui est comme ça. Si vous allez à Hanoï maintenant, je dis ça parce que j'étais terrifié chaque fois que je devais traverser une rue à Hanoï, c'est le bordel total, c'est-à-dire que plus personne ne respecte, même, pourtant c'était le régime communiste, mais sur le plan de la circulation, il n'y a plus rien qui reste d'une sorte du stéréotype qu'on peut avoir de l'État communiste. C'est totalement... C'est-à-dire, il n'y a plus aucune règle, plus de s'interdit, plus de feu rouge, tout le monde. La seule règle, simplement, c'est le seul truc, c'est le klaxon. Et plus le véhicule est grand, plus le klaxon est gros, et tout le monde s'en sert. Donc, quand vous avez une petite voiture, et boum, quand c'est un gros machin. Donc, ça, c'est ça. Et aussi, pourquoi il n'y a pas d'accident ? Mais parce que les gens se comportent en voiture comme vous vous comportez dans les foules à pied. Quand vous sortez d'un stade, il y a une grande foule. Mais vous ne connaissez pas tout le monde, sinon vous n'êtes pas en train de faire ça. Tout le monde s'ajuste. Et c'est la même chose en voiture à Hanoï. Il faut s'ajuster, etc. Vous voyez ? Donc, Ici, bon, en France, il y en a un peu moins, mais il y en a aussi. On sait tous que quand on a repéré un radar, 200 mètres avant, on se met à 80, et 100 mètres après, on repart à 90. Ben, grosso modo, pas tout le monde, mais une bonne partie des gens. D'accord ? Vous voyez ce que c'est les normes pratiques, c'est ça. Sauf que c'est ça dans les pratiques professionnelles. C'est la même chose. Il y a des pratiques professionnelles. Les sages-femmes sont au Niger, doivent, pendant le travail des parturientes, remplir ce qu'on appelle un partogramme, qui est le fait de mettre toutes les constantes, toutes les demi-heures ou toutes les heures, le bruit du cœur fœtal, la dilatation du col, la température, la pression artérielle. On doit faire ça. Et on met ça sur une fiche pré-remplie. Et ça fait une sorte de courbe. Et si la courbe sort de certaines limites, ça veut dire, attention signal, il faut référer. C'est-à-dire, il faut évacuer, il y a danger, un accouchement. Il faut aller dans un truc équipé. D'accord ? C'est le monitorage qui est diffusé depuis 40 ans par l'OMS et par tous les ministères de la Santé dans tous les pays d'Afrique. Tous. Honnêtement, je vais vous dire un truc à la louche, ce n'est pas une vraie statistique, mais il y a moins de 5% des sages-femmes qui le remplissent pendant le travail. Et c'est au Niger, c'est vrai au Niger, c'est vrai au Bénin, c'est vrai au Burkina, c'est vrai au Mali. Et du coup, il a reçu le nom satirique de postogramme. C'est parce que les sages-femmes le remplissent après avec des chiffres standards qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Elles ne s'en servent pas pour monitorer. Bon, si vous voulez, on peut en discuter après de savoir pourquoi. Et voilà, ça, ce sont des normes pratiques. Il y en a en pagaille. Sur les sages-femmes, on a fait une sorte de liste pour essayer de faire ça un peu sérieusement. On en a fait 35, on aurait pu en faire 40 ou 32, hein, peu importe. Et 35, et chaque fois, quand on discute, on fait des ateliers avec des sages-femmes, on leur énumère, au début, elles sont un peu machin, on leur dit, c'est bien ça, et elles disent, oui, c'est vrai, c'est bien ça. Donc, on est bien d'accord. C'est ça un peu les normes pratiques. Voilà. Alors, je termine juste pour la structure du livre, et puis après, on discute, c'est ça, hein. Ça va ? On a encore 5 minutes, allez, bah. Ah non, j'ai dépassé. Ça va ? Allez. Juste la structure du livre. Voilà. 4 parties, d'abord, qui sont les parties de diagnostic. C'est le gros. C'est les 80% du livre. Alors, il est fait en 4 parties. D'une part, les modèles voyageurs. Hein. Modèle voyageur, c'est-à-dire donc un parcours théorique sur pourquoi modèle voyageur, politique publique, qu'est-ce que ça veut dire, la littérature là-dessus. Et un exemple très concret qui sont les transferts monétaires. Qui soit un modèle voyageur, c'est-à-dire de distribuer en cas de famine, en cas d'épidémie, auprès des familles les plus vulnérables, de distribuer des sommes d'argent à chaque mois aux femmes. Je vous la fais courte. Et qui vient du Brésil et du Mexique et qui actuellement existe dans tous les pays d'Afrique. Il y a plusieurs, voire parfois plusieurs dizaines de programmes de transfert monétaire. D'accord ? Très modèle voyageur. Donc ça, c'est une étude de cas. Deuxièmement, il y a sur les normes pratiques, donc normes pratiques, même chose, un chapitre théorique d'où vient ce qui existe dans la sociologie, la science politique sur les écarts aux normes et comment moi j'essaye de me situer vis-à-vis de ça à partir du truc de notre expérience, et un chapitre sur les normes pratiques au Niger dans le domaine de la santé en particulier et un peu l'éducation aussi. Un troisième sur les modes de gouvernance. Alors, mode de gouvernance, c'est simplement pour dire, on prend, comme pour le reste, on ne prend pas gouvernance dans un sens normatif, une bonne gouvernance, une mauvaise. On le prend, et nie au singulier, la gouvernance. On le prend, au contraire, comme de multiples formes de délivrance des services publics. Donc, c'est une définition un petit peu particulière. Les formes de délivrance des services publics, il y a des tas de formes. Et on essaye de montrer qu'il y a, au Niger en particulier, 8 modes de délivrance des services publics assez distincts, que ce soit par les agences de développement, par l'État, par les collectivités locales, par les associations religieuses, par les associations tout court, par les mécènes, ou par le voilà, tada. Donc voilà, et on en développe certains. Et puis un quatrième parti sur les logiques sociales, c'est-à-dire, bon, logique sociale, il y a toujours une tendance à vouloir chercher, sortir de son sac à malice, une logique sociale explicative merveilleuse. C'est une tendance assez réductive. Ou alors deux, on dit qu'il y en a deux. Toujours de réduire. Alors une, on va dire que c'est tout un courant qui existe sur l'Afrique, dire l'Afrique, si elle, quand il y a les gens ne se comportent pas, ne respectent pas les prescriptions officielles, c'est la culture africaine traditionnelle. Voilà, boum. Donc là, on prend la culture africaine traditionnelle comme une sorte d'explication passe-partout, ça viendrait du passé. Alors, je fais un chapitre pour essayer de démonter, que c'est pas vrai, que ça vient pas comme ça du passé, et que ça ne peut pas se régulier en disant voilà le passé de l'Afrique qui explique tout. Et puis aussi après, où on dit que c'est une logique néopatrimoniale qui s'oppose à une logique légale rationnelle, à la Weber, à la Max Weber. pourquoi il n'y aurait que deux logiques, qu'est-ce qui ferait que les gens n'obéissent qu'à deux logiques, au nom de quoi on va décréter qu'il y a une ou deux. Mais c'est vrai dans d'autres domaines de l'anthropologie, hein. Il y en a qui disent qu'il y a une logique holiste et une logique individualiste, j'ai jamais compris pourquoi il n'y en aurait que deux, et pourquoi la moitié des gens en auraient l'une et l'autre pas, etc. Bon, vous avez la logique du marché, la logique du don, et Caillé, enfin, d'autres qui sont amusés à ça aussi. Enfin, vous avez des sortes de trucs un peu invraisemblables. Où, non, on est une diversité de logiques, et du coup, il y a un chapitre pour montrer 7 ou 8 logiques, mais empiriques, hein, pas des logiques théoriques déduites, pas comme les économistes hein, qui déduisent en chambre des logiques. Non, enfin, pas l'économie comportementale, mais en tout cas l'économie classique. Non, il y a plusieurs types de logiques, et bon, au Niger, je m'amuse à travailler sur la logique de l'honneur, de la honte, la logique du don, la logique de l'échange de faveurs, etc. Bon, peu importe. OK. Après, la fin du... Alors ça, c'est toute la partie diagnostique qui est le cœur du... Après, je me suis quand même risqué, parce que j'ai des amis qui travaillent dans le monde du développement, que je les aime bien, que je trouve qu'il y a plein de gens intéressants dedans quand même, même s'ils travaillent dans des trucs compliqués, et qui me disent toujours, vous êtes bien gentils, vous ne faites que critiquer, voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous proposez ? On est toujours un peu emmerdé sur cette question, et j'ai voulu quand même essayer de l'aborder et de proposer des choses. Pas beaucoup, parce que je ne suis pas, et vraiment des pistes. Et là, je veux dire, je suis autant sur le diagnostic, je suis prêt à le défendre mordicus presque mot par mot. C'est-à-dire, je pense, en tout cas, sur la partie empirique. La partie théorique, vous pouvez discuter, on peut toujours discuter d'un concept et dire qu'on peut en trouver un autre qui explique mieux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sur la partie empirique, là, je suis prêt à défendre mordicus toute phrase que j'ai mis là-dedans. Parce que c'est vraiment 25 ans de recherche collective. D'accord ? Donc, vraiment, sur ça, j'ai... voilà. Pourquoi j'ai dit ça, d'ailleurs ? Je ne sais plus où je suis. Je suis en train de
arriver à la partie analytique, je crois.
Oui, ouais, pour arriver... Et donc, par contre, lorsqu'il s'agit de propositions, je suis plus sûr de moi. Vous voulez dire le statut de cette partie de proposition, parce que je m'exprime en tant que citoyen, plus en tant que chercheur. Et je n'ai plus une légitimité de citoyen, pas plus que n'importe qui. Donc, je fais des propositions qui sont liées évidemment par nos expériences, mais donc je ne suis pas du tout sûr que ça peut marcher. Simplement, il y en a une dont je vous dis maintenant la fin de l'histoire du Sénégal du début, et parce que je trouve que c'était intéressant. Un projet normal, quand il a vu que les mecs, ils allaient vendre les charrues aux forgerons et qu'ils prenaient des vaches au lieu de bœufs, un projet normal, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Le plus souvent, il aurait renvoyé de nouveau des brigades entières de vulgarisateurs expliquant aux paysans, vous n'avez pas bien compris, c'est pas comme ça. Ou bien il aurait pu mobiliser plutôt des contrôles, on aurait mis des douaniers ou des policiers pour éviter qu'ils franchissent la frontière pour aller... vendre des machins, on aurait mis des vétérinaires sur les marchés pour vérifier le sexe des bovins, des trucs comme ça. Ben, le projet n'a pas fait ça. C'est pourtant, c'est un projet public, en plus. Ça aide, je crois. Et c'était, je suis pas sûr, c'était Jean-Michel Jung qui avait travaillé là-dessus. Et, non, c'est pas ça, bon, peu importe. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de changer leurs objectifs. Ils se sont transformés, ils ont fait un projet de soutien à l'embouche. C'est-à-dire de soutien à l'élevage des veaux. Formidable. Formidable. C'est-à-dire que le projet, au lieu de vouloir que les gens s'adaptent à lui, il s'est adapté aux gens locaux. Alors vous direz, mais c'est quand même pas... Ça devrait être normal. Oui, justement. C'est que c'est totalement exceptionnel. C'est totalement exceptionnel. Parce que toute la logique du système des projets, du système de l'aide au développement, c'est de vouloir à tout prix que les gens atteignent des objectifs. Et donc, le fait de repérer des effets inattendus pendant, et que ce soit le projet qui, à ce moment-là, s'adapte aux effets inattendus, c'est rarissime. Je crois qu'on l'a vu 2 ou 3 fois en 20 ans, dans des centaines de trucs qu'on a vu passer, quoi. Et où on a pu. Et bon, alors, il y en a peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est rarissime. Autrement dit, ça, c'est une piste. Mais ça implique que, du coup, des agences de développement, ils jouent le jeu. D'abord, il faut qu'il y ait des chercheurs qui jouent le jeu. Il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas des masses à travailler sur les effets inattendus. Bon, il faut ça. Mais même ça, si en face on a des agences de développement qui s'en foutent ou qui ne sont pas intéressées par ça, on ne va rien faire. Donc le travail maintenant d'essayer de convaincre des gens dans des agences de développement que les effets inattendus, ce qu'on leur amène, ce n'est pas des emmerdements. Parce que pour eux, quand on leur montre des effets inattendus, c'est des critiques, on met du sable dans leur couscous, qu'est-ce qu'on va chercher des histoires, on les emmerde. Non, au contraire, on vous amène des pépites. Vous amène des trucs qui vous permettent justement de faire enfin un projet qui soit un peu mieux adapté aux gens. Bon, donc ça, c'est la première piste, une recherche interventionnelle qui serve au projet à s'adapter en cours de route, mais sachant que c'est un changement de perspective important pour le processus même de conception et des projets. Peu de, les ONG aussi ne peuvent pas faire ça. Ils travaillent aussi sur avec des argents publics ou avec des projets. Quelqu'un qui dit au bout de 2 ans, ben, on va faire complètement autre chose que ce qui était prévu, c'est dur à vendre. C'est dur à vendre. Mais on ne désespère pas, donc on essaye de placer ça. L'autre chose, l'autre piste, c'est ce que nous, on appelle les experts contextuels. C'est-à-dire qu'à travers nos expériences depuis 20 ans, on a de temps en temps retrouvé des exceptions admirables. Des infirmiers qui travaillaient mieux que les autres, qui arrivaient avant, qui faisaient mieux, qui soignaient mieux les gens, qui étaient moins, etc. Des juges qui étaient un peu moins corrompus, ou un peu même moins que les autres. On a trouvé des gens qui étaient assez admirables et qui essayaient d'améliorer quand même, dans des conditions très difficiles. Ces conditions de service public en Afrique, c'est quand même très difficile à vivre. De dénuement, de machin, hein, et qui quand même essayaient d'améliorer. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. On les a appelés, nous, tantôt des réformateurs de l'intérieur, et avec l'idée que c'est quand même eux qui sont importants, que les réformes de l'extérieur faites par les bailleurs de fonds n'ont pas beaucoup de chances de marcher si ça part pas si ça ne se plie pas sur les réformes de l'intérieur. C'est aussi simple que ça, quelque part. Ou on les appelle aussi des experts contextuels. Un expert contextuel, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les experts internationaux, les experts en ingénierie sociale, mais quelqu'un qui connaît bien son contexte, qui maîtrise bien un contexte local, il a de l'expertise. Surtout s'il a une distance un peu critique, et s'il a une envie de changer, d'améliorer. Alors, cette notion d'expertise contextuelle, je ne l'ai pas inventée. Hein. Déjà, quand on travaillait sur la paysannerie il y a 50 ans, c'est à peu près ça, c'était déjà ça, en disant que le savoir paysan, c'était un savoir expert. Du paysan qui faisait de la multiculture, de machin, etc., avec ça. Il avait une expertise aussi, mais une expertise contextuelle, que n'avait pas l'ingénieur agronomique, le gars du CIRAD et tout ça, qui était hyper fort en tout ce que vous voulez, mais pas du tout pour ça. Donc, cette notion d'expertise contextuelle existe. Maintenant, on voudrait essayer de la mettre dans le sens de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y ait des fonctionnaires qui sont aussi des experts contextuels et qu'on ne peut pas réformer les administrations sans passer par eux. Et donc, on essaye. Alors, on a fait un réseau au Niger, on fait une recherche-action. On a un réseau dans la santé au Niger d'une soixantaine d'experts contextuels qu'on a mis en réseau, qu'on met ensemble, dont on a documenté les innovations, etc. etc. Voilà, ça, c'était la seconde piste. Alors, conclusion. C'était un chapitre qui porte sur un peu qu'est-ce que c'est que cette anthropologie-là, pour essayer de se situer dans l'histoire un peu de la discipline. Qu'est-ce que c'est que cette anthropologie-là, qu'on essaye de développer, parce que je ne suis pas le seul, on est quand même un certain nombre à fonctionner un peu comme ça, beaucoup comme ça même. Au fond, essayer de définir ce qu'on peut appeler la positionnalité épistémologique, pour employer des mots savants. Alors, au fond, j'ai résumé ça comme ça, anthropologie des diversités, des discordances, des contradictions, des écarts. Disons que ça s'oppose quand même à souvent des visions un peu dominantes de l'ethnologie qui a souvent été basée sur des homogénéités culturelles, sur penser plus que les gens avaient en commun versus ce qui se passait en Occident, etc. Donc là, on est dans un autre type de choses. Je reviens sur les histoires Le dernier chose, c'est un objectif que j'ai, un troisième objectif au fond que j'ai oublié de vous dire au début, et qui est au fond, contrairement à vouloir avoir trop d'inflation théorique ou de prétention théorique, et aussi quelque chose qui souvent m'agace un peu dans pas mal d'ouvrages de gens que je vais surtout pas vous citer ici, c'est, je pense que souvent ce qu'on peut faire de mieux, c'est de mettre des mots et du sens sur ce que beaucoup d'acteurs de terrain sentent confusément, de façon imperceptible, sans avoir la capacité de le verbaliser, de le mettre en argumentation, de le mettre en signification ou de le conceptualiser. Et je pense que simplement ça, ce que j'essaye au fond de faire, et ce qui me permet avec ça de dialoguer avec une sage-femme, un infirmier, un instit, etc., de façon quasiment... de façon quotidienne, je trouve ça un objectif qui est plus modeste peut-être pour les sciences sociales, mais qui, je pense, est plus important. Voilà. Excusez-moi d'avoir longueur.